universalité, là encore, qui concerne également les trois religions monothéistes. Comment relier entre elles, de façon vivante, c'est-à-dire autrement qu'en rappelant des formules dogmatiques qui ne passent plus et que personne ne reçoit plus, la multiplicité des petits récits croyants qui résultent de la diversification individualiste des trajectoires d'identification, et comment relier ces petits récits aux grands récits de la tradition. Toutes les traditions, et en particulier le christianisme, ont aujourd'hui à faire face à cette question. Ceci suscite bien entendu de multiples réactions de défense patrimoniale de la tradition vraie. Et ces réactions ne sont pas le seul fait des courants intégristes ou néo-traditionalistes. Cela suscite aussi, sous une forme plus soft, plus euphémisée, la méfiance ou le rejet par rapport au développement du dialogue interreligieux dans des milieux qui ont le sentiment de perdre face à ce mouvement de reconnaissance de ce que Claude Jeffrey a très heureusement appelé les valeurs salutaires des autres religions, leurs propres repères identitaires. On invoque le risque de syncrétisme ou celui de voir le fameux dialogue se dissoudre en une de ces synthèses éthico-esthétiques inconsistantes. Le risque existe peut-être et il faut probablement s'en garder. Reste que la possibilité de faire face à cette question majeure, qui n'est rien moins celle que celle du statut de la vérité dans une modernité gouvernée par la culture moderne de l'individu, ne peut plus aujourd'hui, dans le contexte que je viens de décrire, être posée à l'intérieur d'une seule confession qui pourrait prétendre y répondre pour elle-même. La sollicitation qui vient d'un monde entré dans l'ère du relatif, dans lequel aucun code de sens ne peut s'imposer en bloc aux individus, oblige à reconsidérer la prétention de toute révélation particulière à embrasser cette vérité tout entière. Du point de vue du christianisme, cela implique toutes sortes de questions, du point de vue des autres traditions aussi. Qu'est-ce qu'implique, du point de vue du cheminement croyant lui-même, le travail de désabsolutisation de la révélation auquel introduisent ces questions? Que signifie, du point de vue théologique, le décompactage de la vérité à laquelle ouvre la confrontation des différentes traditions? Quel sens peut être donné, dans ce contexte, à l'enracinement personnel et communautaire dans une lignée croyante particulière? Quelle conception de l'autorité propre à chaque tradition en découle? Ces interrogations ne sont pas des sortes de préalables au dialogue interreligieux, ils sont la matière même, le cœur même du dialogue interreligieux. Et de ce point de vue, loin d'induire et d'amplifier les phénomènes de dissémination individualiste du croire, le dialogue interreligieux pourrait bien constituer, à distance des régulations dogmatiques mises à mal de fait par l'autonomisation croissante des sujets croyants par rapport aux institutions religieuses, une forme émergente et innovatrice de régulation des identifications croyantes à des traditions particulières, dépouillées de leur prétention à la possession exclusive de la vérité, mais d'autant mieux reconnues dans la spécificité de leur rapport à l'expérience religieuse de l'humanité que leur pluralité est précisément attestée et valorisée. La dialectique de la dépossession et de la refondation du lien à la lignée croyante, qui est la dynamique même du dialogue interreligieux, en fait le lieu par excellence où peut être posée la question majeure de la modernité religieuse, dont dépend la survie des institutions: comment reconnaître pleinement l'autonomie du sujet croyant, partie définitivement intégrante de son autonomie de sujet moderne, sans laisser cette autonomie se dissoudre dans la pure privatisation du croire? Comment, autrement dit, penser conjointement la liberté fondamentale du croyant et son insertion vitale dans un corps communautaire dans lequel s'inscrit la continuité de la lignée croyante? Ma conviction, ce sera mon dernier point et ma conclusion, est que ces interrogations proprement religieuses rejoignent par plus d'un trait celles d'une laïcité confrontée dans des termes nouveaux au conflit entre une conception intégratrice de l'identité nationale qui ne connaît que des individus et une conception différentialiste des identités communautaires qui vide de sa substance l'idéal universaliste de la République. Forgée dans l'affrontement historique entre l'Église romaine et la République, la laïcité à la française s'est mise en place dans les turbulences que l'on sait comme un dispositif régulateur des relations entre l'État et les différentes confessions religieuses, protégeant contre tout retour des particularismes l'autonomie du sujet citoyen. Confronté à l'atomisation individualiste des revendications, et notamment des revendications religieuses, à la prolifération des micro-communautés et aussi à la logique de la mondialisation, la laïcité doit prendre en charge, sur de nouveaux terrains, le travail d'élaboration des valeurs capables de fonder les solidarités vécues d'une société d'individus. Comment penser l'autonomie du sujet citoyen sans la réduire à la forme dégradée que pointait déjà Benjamin Constant, celle de l'indépendance de l'individu dans sa vie privée? Comment, à partir de cette autonomie reconnue et redéfinie, produire du lien social? La contribution possible, et que je crois être attendue, des grandes familles religieuses à cette nouvelle synthèse culturelle est directement en fonction de leur capacité d'entrer par le dialogue entre elles dans une manière renouvelée de faire la vérité. Je vous remercie.
Il y a une sorte de brouhaha qui suit les applaudissements. Je pense que nous pouvons remercier Daniel Hervieux-Léger d'avoir évité un piège qui lui était tendu, peut-être par la manière dont j'ai présenté le propos tout à l'heure, à savoir d'isoler la problématique de l'islam dans notre société de la problématique des autres religions par rapport à la modernité et par rapport à l'individualisation de tout, par rapport à la partialisation des communautés, par rapport à l'émiettement des autorités, à la discontinuité du patrimoine des convictions. Je crois qu'elle nous a bien renvoyé à nous tous les questions que nous serions souvent tentés de ne poser qu'aux autres. Et je pense qu'en ce sens, le discours de Daniel était extrêmement riche. Mais là, c'est une opinion personnelle. Monsieur Harcourt, vous voudrez peut-être, en tout cas,
réfléchir sûrement, mais pas répliquer. Parce que, parce que il y a longtemps que j'adhère aux attitudes que développe Daniel Hervieux-Léger pour transférer la recherche et la réflexion des religions particulières vers le fait religieux. Quand je l'entends dire, par exemple, que la désabsolutisation de la révélation est un phénomène qui va concerner en particulier les trois religions révélées, je ne peux que me réjouir. En ajoutant cependant que toutes les questions d'ordre théorique, pour l'approche théorique ou pour une construction d'une théorie du fait religieux aujourd'hui, tous ces questionnements-là qui sont développés en Europe, dans les universités, grâce aux chercheurs nombreux qui s'occupent de cela, à une littérature scientifique qui circule relativement. Mais les chrétiens, dans une position très avantageuse par rapport à la position très démunie de l'islam, pour prendre en charge ces questionnements nouveaux. Dans l'état actuel, politique et culturel, et aussi social, des sociétés qui se réfèrent à l'islam, ce questionnement-là et cette attitude intellectuelle devant le fait religieux, et non pas les religions particulières, est psychologiquement impensable pour un très grand nombre de musulmans, heureusement pas pour tout le monde, mais pour un très grand nombre. Et pour ceux qui peuvent agiter des questionnements semblables dans une langue arabe, par exemple, parce que ni l'opinion publique musulmane, ni les institutions officielles, l'État, ne peut tolérer un développement libre d'une telle réflexion. Parce que l'État repose sur une légitimité qui nécessairement emprunte beaucoup à l'islam, mais à l'islam surtout comme référence, et l'opinion publique a une conception de la croyance qui est malheureusement fondée sur une tradition elle-même très appauvrie, comme je vous l'ai dit, puisque non seulement la réflexion philosophique est absente, l'apport des sciences sociales est extrêmement faible, sa communication dans ces langues islamiques est extrêmement insuffisante, si bien que l'islam se trouve extrêmement démuni. J'ajouterai, si vous permettez, une remarque sur ce qu'a dit Daniel Hervieux-Léger sur la recommunautarisation, c'est difficile à dire, de la communauté juive. Eh bien, ça se passe exactement de la même façon et selon le même processus pour les musulmans, puisque les ministres de l'intérieur, qui sont les ministres du culte, ont tous essayé, Pierre Jox comme Charles Pasqua, ont tous essayé de créer un haut conseil représentatif des musulmans en France, qui soit une sorte d'intermédiaire entre l'État laïque et les musulmans, et ce faisant, il communautarise un ensemble de groupements ou de groupes ethnoculturels d'ailleurs, de groupes d'origine politique différente, appartenant à des régimes politiques différents dans leurs pays respectifs, qui ont des expressions extrêmement différentes de l'islam. Et aussi d'un point de vue théologique, c'est très important, la théologie musulmane est plurielle. Je dis toujours, dans une formule un peu lapidaire, que l'islam est théologiquement protestant et politiquement catholique.
Toutes les qualités.
Ce ne sont pas les qualités, peut-être tous les défauts.
Daniel ?
Très brève remarque sur ce qu'a dit Mohamed Harkoun, et en particulier sur le rappel qu'il a fait de la richesse et de la pluralité de la pensée musulmane, qui lui a permis d'introduire deux idées importantes. La première, c'est qu'en fait, pour apprécier la spécificité d'une religion, il faut contextualiser l'analyse qu'on en fait, se souvenir dans quelles conditions elle s'est développée, et donc échapper à l'idée selon laquelle il y aurait des dispositions intrinsèques de l'islam qui l'éloignerait par nécessité de la modernité. La deuxième idée très importante, à mon avis, qui a été introduite, c'est ce plaidoyer pour l'intelligence des traditions. Mais là, j'aurais envie de lui dire que si ce plaidoyer, il le formule d'une façon particulièrement vigoureuse, compte tenu de l'inhibition historique de la pensée musulmane donc, qu'il nous a rappelé, ce plaidoyer pour l'intelligence, je pense qu'il est indispensable de le faire valoir dans l'ensemble des traditions. Enfin, une toute petite remarque qui pourrait éventuellement être le point de départ d'un débat. Quand j'évoquais la tendance à la communautarisation, je ne pense pas que l'institutionnalisation des différentes traditions comporte en tant que telle un risque de communautarisation. J'aurais même tendance à dire que l'une des meilleures façons de faire face aux problèmes et aux processus de la communautarisation, d'ailleurs multiple et très émiettée, de l'islam, est peut-être aussi de réfléchir aux voies de son institutionnalisation comme tradition, en sachant aussi que ceci fait apparaître qu'en France, nous vivons, alors que nous sommes formellement sous un régime de séparation où toutes les religions sont égales les unes et les autres face à l'État, nous vivons dans un régime subreptice et implicite des cultes reconnus. Et il y a là un problème politique et un problème juridique, je crois, de grande importance, particulièrement pour sortir l'islam de son exceptionnalité.
Merci. Alors, la communauté non communautariste que représente cette salle s'est dotée d'une institution qui va maintenant nous renvoyer cette parole médiatisée.
Alors d'abord, une première remarque qui est aussi une déception, pas forcément petite, je crois même importante, de la part de certains des participants aux semaines sociales, et qui est revenue plusieurs fois. J'ai eu l'impression que le paysage géopolitique s'arrêtait au Maghreb, dit l'un des participants, mais que fait-on des Tibétains, Népalais, Chinois, Sri Lankais, Indiens, etc., qui doivent être considérés comme migrants, et des églises persécutées arméniennes, coptes, chaldéennes, chrétiens du Sud-Soudan, etc. Où est l'écuménisme ? En vous remerciant d'avoir lu ma question, ce qui est fait. D'autres...
Ça s'adresse aux semaines sociales dans leur ensemble.
Dans leur ensemble. De même, quelqu'un regrette que le bouddhisme n'ait pas du tout été évoqué, alors qu'il prend une part importante maintenant du paysage religieux. Voilà des questions alors plus directement adressées à Monsieur Harkoun. Est-ce que dans la mesure où vous demandez une recherche approfondie et à la fois intelligente, théologique aussi, que pensez-vous des projets de faculté théologique à Strasbourg? Est-ce que vous l'encouragez ou pas? Comment envisagez-vous la création d'institutions scientifiques et culturelles musulmanes et aussi un réseau d'écoles qui pourrait favoriser une intelligence de la religion musulmane, islamique?
Oui, je peux d'autant mieux répondre à cette question que je suis moi-même, depuis pratiquement 1989, date mémorable de la grande effervescence autour de l'affaire Rushdie, où M. Bruno Frappa, ici présent, avait accueilli une de mes interventions dans Le Monde, et où déjà je réclamais la création en France d'un grand centre national d'études islamiques. Et à ce moment-là, en accord avec mon collègue et ami Étienne Trocmé de Strasbourg, qui avait lancé aussi l'idée d'une faculté de théologie à Strasbourg, parce qu'on peut bénéficier à Strasbourg du concordat pour créer une faculté officielle sous l'égide de l'éducation nationale, j'ai réussi à le convaincre qu'il était meilleur de penser à un institut d'études islamiques, créé bien sûr sous l'égide de la République laïque et du ministère de l'éducation nationale, ayant pour vocation de conduire, à partir de l'exemple islamique, une recherche qui implique bien sûr l'ensemble des problèmes qui concernent l'islam, mais aussi l'ensemble des problèmes qui concernent le religieux, très ouvert par conséquent sur le fait religieux, mais dont la fonction principale serait de créer une sorte de place de référence pour une autorité intellectuelle, scientifique, académique au sujet des questions islamiques et qui préparerait à la fois le terrain pour un meilleur dialogue, si je puis dire, avec les exigences de la laïcité et de la République, et d'autre part qui préparerait aussi bien l'opinion française non musulmane que les musulmans vivant en France et par-delà eux les musulmans vivant en Europe aux problèmes plus généraux de l'insertion de l'islam dans un espace européen, c'est-à-dire de toute la modernité telle qu'elle se vit en Europe. Voilà ce qu'était le projet. Ce projet a été approuvé par François Mitterrand, et on y a travaillé, on l'a préparé, il a failli y aboutir, et je ne vais pas vous raconter les péripéties qui ont fait que les discontinuités de l'État et de la majorité en France font qu'il faut sans cesse, sur le métier, remettre un tel ouvrage.
Ce que ne dit pas M. Harkoun, c'est qu'il y avait à l'époque un ministre de l'Éducation nationale qui n'était pas très chaud pour ce projet et qui depuis est devenu Premier ministre.
Exactement.
Voilà. Alors, il est devenu actuellement Premier ministre. Bon, mais il est à Brest aujourd'hui, alors on peut en parler. Question.
Alors,
au groupe de questions.
Oui, d'abord une mise au point. Aurons-nous dans le livre en souscription l'intervention brillante, lucide de Mme Hervieux-Liget dans le livre en souscription? Bien sûr, vous l'aurez. Ça, c'était juste une mise au point rapide. Maintenant, des questions à Mohamed Harkoun, qui traduisent un certain flou dont on vient de faire état d'ailleurs tout à l'heure sur l'islam. Peut-on parler d'une culture islamique française? Ou bien l'islam a-t-il sa propre culture? Ensuite, un soupçon sur le dialogue islamo-chrétien, justement en raison de ce flou. Comment peut-être mener une réflexion théologique dans l'islam sans structure hiérarchique, sans lien structurel entre les islams dans des différents pays, où chacun peut se déclarer imam? Comment se conduit la pensée islamique? Et enfin, dans le cas où finirait par s'engager en France une réflexion, un travail intellectuel et scientifique sur l'islam. Existe-t-il un vivier d'intellectuels musulmans prêts à ce travail qui nécessite une grande liberté intellectuelle et religieuse personnelle, mais également des convictions religieuses, ne serait-ce que pour être crédible vis-à-vis d'une communauté de croyants?
Alors, monsieur Harcourt, est-ce qu'on peut faire de la théologie sans hiérarchie? C'est déjà difficile d'en faire avec, mais alors sans?
Il y a toujours une hiérarchie, même si elle n'est pas juridiquement constituée et imposée. De toute façon, il y a eu de l'activité théologique en islam. Comme je l'ai dit, c'était une activité plurielle. Et la théologie se définit progressivement à travers la disputation, c'est-à-dire les confrontations entre des théologiens qui arrivent à émerger par leurs œuvres et leurs théories, et qui arrivent aussi par ces disputations qu'ils entretiennent avec leurs rivaux ou leurs concurrents, qui arrivent à émerger, à imposer leurs positions, qui deviennent une école. C'est ainsi que les choses se sont passées dans ce temps lointain que j'avais évoqué. Aujourd'hui, il faut noter qu'il n'y a, pour ainsi dire, pas d'effort de recherche théologique, pour les raisons que j'ai énoncées, essentiellement politiques, mais aussi pour des raisons culturelles, parce que les outils nécessaires pour faire de la théologie sont absents, aussi bien les outils de la pensée théologique proprement dite, par exemple la recherche exégétique sur les textes fondateurs, sans cela on ne peut pas vraiment faire de la théologie, et aussi une information tout de même, comme on le voit avec les théologiens chrétiens, et en cela il y a un grand décalage entre le cas du christianisme et celui de l'islam, une information auprès des sciences sociales et de ce que les sciences sociales nous apportent. Par exemple, la linguistique, l'histoire, l'anthropologie sont des lieux d'information pour les théologiens pour essayer justement de bénéficier des positions comme celles qui ont été posées tout à l'heure et les penser théologiquement aujourd'hui. Donc il y a là un retard, de même qu'il y a un retard économique dans les sociétés, de même qu'il y a un retard dans les institutions politiques, on peut dire qu'il y a un retard dans l'élaboration théologique. Est-ce qu'il y a un vivier d'intellectuels? Sûrement. Il y a, de par le monde, un grand nombre d'intellectuels qui peuvent faire ce travail. Seulement, ils sont tous, je dirais, isolés, puisqu'ils vivent dans des pays très différents, européens ou en Amérique, avec des langues différentes, et par conséquent, ils n'arrivent pas à dégager un mouvement suffisamment cohérent, visible dans un pays, qui est une visibilité intellectuelle, comme je le disais tout à l'heure, pour pouvoir constituer un lieu de référence. Jusqu'à présent, cela ne s'est pas produit, bien que, encore une fois, ceux qui sont en train de travailler isolément, de produire, d'écrire, sont nombreux, et leurs ouvrages circulent, mais encore une fois, il n'y a pas vraiment de courant que l'on puisse désigner et identifier.
Encore une question sur l'islam et la capacité de l'islam à susciter des démocraties. Une démocratie islamique dans le cadre d'un islam politique vous paraît-elle possible dans les États musulmans d'Afrique du Nord et en Algérie surtout ? Y a-t-il des référents historiques d'une démocratie islamique dans un État musulman ?
C'est une longue question. Ça, c'est une courte question, mais une longue réponse, sûrement.
Non. Oui. La réalisation politique et juridique de la démocratie est un phénomène qui est lié à la modernité. Bien sûr, on peut référer à la démocratie athénienne, mais elle est très particulière, très limitée, et ça n'est pas la même chose qu'une démocratie de nos sociétés modernes, surtout quand la démographie joue le rôle qu'elle joue dans les sociétés musulmanes depuis les années 50, car c'est une dimension qu'il faut introduire et qui compte beaucoup pour le devenir de la religion musulmane aujourd'hui. C'est que les sociétés musulmanes ont connu une croissance démographique absolument sans précédent dans l'histoire démographique des sociétés humaines, puisque en 30 ans, il y a eu une progression de la population de 70%, ce qui veut dire que nous avons une population à 70% qui sont nés depuis les années 60, ce qui change complètement les conditions d'expression et de la culture et de la religion et de la politique. Ça, c'est une dimension d'une très grande importance sociologique dont il faut tenir compte pour la construction d'une démocratie. Alors, la construction des démocraties aujourd'hui se heurte à des problèmes tout à fait nombreux, comme M. Bruno Etienne l'a dit, il serait trop long de s'engager là-dedans, parce qu'il y a des difficultés internes et des difficultés externes. En particulier, par exemple, les difficultés économiques. Tous les pays musulmans sont économiquement dépendants. Les difficultés monétaires, ils sont tous monétairement dépendants. Autrement dit, la fameuse indépendance conquise au prix des luttes que l'on connaît était une indépendance politique qui a généré ensuite plus de problèmes qu'elle n'en a résolu. Voilà pourquoi on se trouve en face de difficultés considérables pour faire des expériences démocratiques. Mais quant à l'islam, le rôle de l'islam, est-ce qu'il tolère une démocratie ou pas? Il ne faut pas poser la question ainsi. Je me suis un peu insurgé déjà contre cette façon d'utiliser la référence à l'islam avec un I majuscule. Il faut voir l'islam comme toutes les religions dans la dynamique historique d'évolution. L'islam qui s'exprime dans la bouche de ce que nous appelons les fondamentalistes est un islam conjoncturel qui est lié à une conjoncture politique précise, économique précise, démographique précise. Et on ne peut pas dire que c'est l'islam avec un grand I qui va commander pour l'éternité les rapports à la démocratie, rendre possible la démocratie ou s'opposer à la démocratie. Voilà un exemple d'une manière entièrement faussée dans l'esprit du public d'aborder le rôle, la fonction, la place de la religion aujourd'hui dans les sociétés. Et cela prouve, hélas, que les travaux qui se font, comme je le disais, en Europe, sur les religions, ne circulent pas beaucoup dans les sociétés, puisque la grande partie de l'opinion ne lise pas les archives des sciences sociales des religions. Il faut le demander à Daniel Hervieux-Léger, qui dirige cette revue, à combien tire cette revue depuis que Gabriel Lebras l'a fondée sous un autre nom en 1953.
Elle va nous le dire, elle va doubler la diffusion.
Je ne vais pas vous parler des archives de sciences sociales et religion, mais je voudrais ajouter quelque chose à ce que vient de dire Mohamed Harkoun à propos des rapports entre religion et démocratie. C'est une question qui est immédiatement posée à tout spécialiste de l'islam. Oui, mais l'islam et la démocratie, ça ne marche pas ensemble. Ne nous donnons pas de gants tout de même. Il a fallu un certain temps pour que démocratie et christianisme ou démocratie et catholicisme marchent ensemble. Il faut quand même sortir de cette position extraordinairement de bonne conscience qui fait que nous regardons le passé avec les lunettes du présent. Il est important de se rappeler que, en fait, c'est les 18e siècle et les Lumières qui ont inventé la notion même de citoyen et toute la construction démocratique sur laquelle nous vivons aujourd'hui, et que ceci s'est fait en grande partie contre des idéologies religieuses. Et que le ralliement à la démocratie s'est fait lentement. Le syllabus de 1864 dénonçait encore la démocratie comme une erreur du monde moderne. Et avec la liberté individuelle. Bon, il faut quand même être clair là-dessus. Nous ne sommes pas les porteurs d'une religion ayant une sorte d'affinité immédiate avec la démocratie, opposée à l'islam qui, lui, serait par essence réfractaire à la démocratie. Tout ça se construit dans l'histoire. Vous me direz, le protestantisme, c'est quand même bien la religion de la démocratie. Doucement, doucement. Un théologien protestant, comme Ernst Troeltsch, a montré d'une manière extraordinairement convaincante que ce sont les Lumières au XVIIIe siècle qui ont inventé l'idée Luther, père des Lumières. Et qu'en fait les choses étaient beaucoup plus compliquées, qu'il y a eu effectivement une contribution spécifique du protestantisme à l'émergence de l'individualisme religieux, l'idée du croyant comme sujet autonome, mais que par ailleurs, il y a eu aussi une longue marche du protestantisme vers l'acculturation de la problématique démocratique. En fait, la contribution protestante originaire à l'émergence de la démocratie, c'est essentiellement la contribution des sectes puritaines, et elles l'ont fait, si l'on peut dire, à leur corps défendant, puisque c'est par un retrait radical du monde qu'elles laissent...
Questions, des questions interreligieuses peut-être?
Donc deux questions à Daniel Hervieux-Léger. D'abord une contestation. Je ne pense pas que l'on puisse parler d'une fin de la civilisation paroissiale, car les paroisses existent toujours, heureusement, même s'il s'en effectue un certain regroupement dans les régions rurales.
Plus sérieusement, chaque individu a besoin d'un groupe où exprimer ses convictions et pratiques. La paroisse est nécessaire et nous souhaitons qu'elle s'affirme pour éviter un émiettement en groupe d'affinités intellectuelles ou sociales. Première question. Deuxième question sur les Journées mondiales de la jeunesse. En ce qui concerne la laïcité et le dialogue interreligieux, quel regard portez-vous sur ce rassemblement des jeunes à Paris et surtout sur la médiatisation qui en a été faite dans un contexte de laïcité?
Alors Daniel, est-ce que la paroisse est le dernier rempart contre le communautarisme, en quelque sorte? C'était le sens de cette question.
Il y a deux questions. Premièrement, est-ce que la civilisation existe toujours? La civilisation paroissiale existe toujours? Réponse non. Est-ce que les paroisses existent toujours? Réponse oui. Simplement...
Merci Daniel.
Simplement, c'est pas la même chose. Bien sûr qu'il y a des paroisses, bien sûr qu'elles existent. Mais précisément, je suis sûr que la personne en question qui pose la question est une de ces personnes investies dans la vie paroissiale qui savent bien qu'elles sont devenues aujourd'hui des groupes de volontaires. Et à quel point? Et que, précisément, cet univers paroissial aujourd'hui, il n'est, quand je parle de civilisation paroissiale, je pense à ce dispositif extensif de quadrillage territorial qui correspondait également à une sorte de maîtrise complète du temps à travers les sonneries de cloches, à travers les rythmes des fêtes, à travers le rythme régulier des pratiques et qui s'incarnait dans l'autorité partout présente du curé, prêtre au centre de sa paroisse. Cette civilisation-là, je crois qu'on peut dire tout de même, sans pousser le bouchon trop loin, qu'elle est quand même sérieusement fissurée. Bon. Par contre, la deuxième partie de la question est extrêmement intéressante. Il est vrai que le dispositif territorial est actuellement dans l'institution catholique le dispositif de régulation de l'autorité et qu'il est extrêmement important de réfléchir à ce que signifie l'affaissement ou le fissurage du cadre territorial d'exercice de l'autorité. Il ne fait pas de doute que se joue là, en effet, un enjeu très important. Qu'est-ce que serait une église de groupe affinitaire? Et la question de la régulation de ces affinités renvoie aujourd'hui fortement à la question de la territorialisation communautaire. Je ne crois plus que ce problème de territorialisation se pose dans les termes du retour de la civilisation paroissiale.
Alors, on va arrêter là les questions de la table. Simplement, il y a une question à laquelle vous n'avez... Oui? Oui, je m'apprêtais à la poser, monsieur, si vous permettez. J'avais bien noté que les JMJ, est-ce qu'on pouvait demander à Daniel Hervieux-Léger si c'était une espèce de paroisse momentanée et fugitive?
C'est presque impossible de répondre à une question aussi vaste que l'analyse de cet événement en une demi-seconde. Je dirais simplement que ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu à l'occasion de cet événement, dont bien entendu une partie a été amplifiée par son écho médiatique même, mais on a vu s'officialiser en quelque sorte une double figure de la sociabilité religieuse contemporaine, qui sont des figures de la mobilité, la figure du pèlerin d'une part et la figure du converti d'autre part. Les JMJ ont été très intéressants de ce point de vue, comme un laboratoire où se croisaient ces deux figures et où s'élaborait un type spécifique de sociabilité religieuse, une sociabilité des hauts lieux, des temps forts, des moments exceptionnels, et qui ne s'inscrit plus précisément dans la régularité des observances. Quant à la laïcité, je veux dire qu'en cette occasion, on a très bien vu que, beaucoup plus que le problème de l'affrontement pur et dur, les religieux d'un côté, les non-religieux de l'autre, se jouait en fait une interrogation commune sur la possible contribution des recherches spirituelles variées, multiples et pas très bien calibrées, présentes dans ce type de rassemblement, à la recherche aujourd'hui d'un sens collectif et des moyens d'élaborer du lien social.
Merci. Je voudrais simplement remercier nos deux conférenciers, M. Harcoun et Daniel Hervieux-Léger, de la qualité de leurs interventions, la profondeur de leurs réflexions et de leurs connaissances.